L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Gaëtan Rohr, Philippe Subercaz.
Bienvenue dans cette émission L'heure de pointe, et nous avons le grand plaisir d'accueillir cette semaine Annette Cuc. Bonjour Annette.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du comité départemental de la Ligue contre le cancer pour le département des Hautes-Pyrénées, et aussi un grand plaisir d'accueillir Gaëtan Rohr du groupe La Dépêche à Nouvelle République.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'abord cette invitation. Annette Cuc, on va parler des missions de la Ligue en général, la Ligue nationale, et puis après on va aller un petit peu dans les coulisses des comités départementaux. Il y en a un dans chaque département de France, et on va voir votre mission et ce que vous y faites. Mais avant cela, Annette Cuc, on va un petit peu vous découvrir. Annette, vous avez pris la présidence du comité départemental de la Ligue contre le cancer il y a maintenant 3 ans. Comment vous êtes arrivée à vouloir venir particulièrement à la Ligue contre le cancer ?
Ben oui, en fait, donc ça fait un peu plus de 3 ans, puisque c'était en septembre 2020, en plein confinement. Voilà, j'ai succédé à Bernard Coudert, au docteur Bernard Coudert, que je salue ici. Et voilà, et en fait, il me sollicitait depuis quelque temps. Bon, moi, j'ai un parcours de pharmacienne hospitalière à l'hôpital de Lourdes, essentiellement en début de carrière à l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël. Puis je suis arrivée à Lourdes, et dans le cadre de ma fonction de pharmacie hospitalière, il y a eu une recommandation, une obligation pour que les pharmacies hospitalières préparent les médicaments anticancéreux. Donc dans cette optique, je me suis formée en pharmacie oncologique, et j'ai monté avec l'équipe une unité de préparation centralisée des médicaments anticancéreux. Voilà, avec un isolateur, installation d'un isolateur. C'était le premier du département. Voilà, avec des conditions très particulières d'utilisation et une formation aussi spécifique pour le personnel. C'est les préparateurs qui préparent.
Il y a un grand centre d'oncologie à Toulouse, et le directeur, l'ancien, un des anciens directeurs de l'hôpital de Lourdes, le docteur Monsieur Bougeron, a fait partie des chevilles ouvrières qui ont mis en place ce grand centre à Toulouse.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était pendant cette période-là qu'on a monté l'unité de préparation centralisée. Bon, voilà, il était sensibilisé à ça. J'ai pas eu de problème avec la direction pour obtenir les financements, parce que c'est un gros financement. Et puis, avoir du personnel aussi qui puisse manipuler les médicaments anticancéreux. Donc, non, oui, j'ai eu l'accord et l'appui du directeur à l'époque. Mmh.
Et donc, vous avez un peu, dans votre parcours professionnel, touché le cancer avec votre particularité de pharmacienne et de préparer déjà tous ces traitements.
Oui. Du coup, on était très proche de l'unité de l'ambulatoire où on recevait les patients qui avaient les chimiothérapies. Bien sûr, on avait des relations privilégiées avec ce service-là, puisqu'en fait, le but, c'était qu'on prépare... On donne un produit fini à l'infirmière, c'est-à-dire sous forme d'une poche de perfusion, avec même la ligne de perfusion, pour qu'elle n'ait aucun contact avec les produits anticancéreux. Puisque le but était là d'éviter toute contamination du personnel hospitalier lors de la manipulation de ces produits-là.
Donc c'est quelque chose qui vous a toujours un peu tenu à cœur, et je me souviens, lors de votre passé, de votre passage à la mairie de Lourdes, où vous étiez conseillère municipale, vous avez mis en place, vous, Octobre Rose, à Lourdes.
Mm-hmm. Oui, ça me tenait à cœur, tout ce que le domaine de la santé, et notamment Octobre Rose, effectivement, parce que bon, c'était quelque chose qui se développait pas mal près de chez nous, à Argelès, à Tarbes, donc c'était important que la deuxième ville du département puisse quand même rentrer dans cette action.
Et dans cette effectivement mobilité là du cancer, Gaëtan, on va peut-être rentrer un peu aussi dans les coulisses de la Ligue contre le cancer au niveau national. C'est aujourd'hui un des premiers financeurs peut-être de la recherche.
Oui, c'est le premier financeur privé. Pour la recherche. Je crois que les derniers chiffres, ils annoncent 13 millions d'euros. hein, accordé à la recherche du cancer là, par la Ligue nationale, grâce aux comités départementaux, mais aussi en national, bien sûr.
Mmh. Voilà. Comment ça fonctionne, en fait, la Ligue?
Alors, il y a quatre missions. Hein, donc, la principale, c'est la recherche, bien sûr, avec carrément une commission scientifique nationale, mais nous avons aussi des commissions scientifiques locales. Voilà, et donc
elles servent à quoi, ces commissions?
Voilà, à décider quel type d'études on va financer. Voilà, les études nous sont proposées soit en national, soit en régional. Voilà, je sors du cadre du national, mais bon, c'est un peu pareil. Et donc, on a un logiciel qui nous permet de sélectionner les études et on dit combien on veut financer sur chaque étude. Alors nous, on finance, on met entre 30 et 40% de notre budget à la recherche, selon nos possibilités financières.
Les départements.
Le département. Par contre, en national, c'est les 13 millions d'euros, là, comme je viens de l'expliquer.
Elle vous apporte aussi, le réseau national, elle vous apporte aussi un soutien, hein, logistique sur les campagnes de publicité. Par exemple, on voit des 4x3 la fleurir un petit peu partout, des messages de prévention sur les médias. Mm-hmm. Ça, c'est payé par le national.
Oui, c'est le national. Là, c'est une autre mission de la Ligue, c'est la prévention. Hein, et avec tous les messages de prévention qui font effectivement au niveau national dans tous les grands médias. Hein, mais voilà, ça nous aide effectivement à pouvoir alimenter aussi notre communication. Hein, voilà, bon, on l'a dans les messages radio, un peu à la télévision aussi, bon, au même titre que d'autres associations.
D'autres, hein, associations. Donc il y a la recherche, la prévention, et puis les deux autres...
Alors, les deux autres, l'autre principal pour nous, c'est l'aide pour les malades, à la PMP, l'aide pour les malades qui, pour nous, se concrétise par des aides financières. On a une commission sociale pour ça, avec un médecin, une assistante sociale et le trésorier du comité, qui se réunissent tous les 15 jours et analysent des dossiers qui nous parviennent par les assistantes sociales pour aider des gens qui sont en difficulté, des gens malades bien sûr, ou leurs proches, qui sont en difficulté pendant la maladie ou après, parce qu'ils ont des baisses de revenus ou des frais supplémentaires à cause de leur maladie. Voilà, ça c'est une première chose, les aides financières. Deuxième chose, c'est les soins de support, donc les fameux soins de support qui aident les malades à supporter, c'est tout à fait le mot, hein, à supporter la maladie, soit pendant le traitement, soit souvent en post-traitement, parce qu'en post-traitement, les gens, ils ont un peu de mal, ils ont une période un peu difficile de dépression, on peut dire, au moins de relâchement, parce qu'ils ne se battent plus contre la maladie. Normalement, ils sont guéris, mais ils sont en rémission. Et voilà, tant qu'on a un traitement, qu'on est suivi, qu'on a des rendez-vous, on est tenu par ça. Et par contre, après, voilà, il y a un grand vide qui se crée. Voilà, et donc c'est à ce moment-là souvent qu'ils ont besoin de nous. Alors c'est les soins de support, c'est soit du soutien psychologique, de la relaxation, de la socio-esthétique, des conseils diététiques, enfin, et de l'activité physique adaptée. C'est les principaux là qu'on développera pour les antennes. Voilà, donc il faut ils viennent vers nous, hein, donc on leur propose les soins de support grâce aux visites que l'on fait au niveau de l'hôpital de Tarbes et à la polyclinique de Lormeaux, où on voit les malades qui le souhaitent, on est à leur écoute et suivant leur disponibilité, on leur propose des soins de support.
Vous pouvez les accompagner pendant combien de temps, ces malades?
Alors,
vous
c'est
dites
un peu...
que c'est difficile après, ça peut être...
Ouais, voilà, alors c'est un peu cadré, mais... on va jusqu'à un an de prise en charge, notamment pour l'activité physique adaptée. Le temps qu'ils puissent après repartir sur une activité physique normale,
hein, qu'ils avaient antérieurement. C'est un temps suffisant, c'est un an, ou si vous aviez davantage de financement, vous pourriez proposer...
Oui, peut-être, oui. On pourrait proposer plus ou diversifier un peu les soins de support, parce qu'on est quand même sollicité pour d'autres types de pratiques. autour de la sophrologie, par exemple, la méditation éventuellement. Bon, tout ça, bon, pour l'instant, n'est pas vraiment la sophrologie ici, mais bon, d'autres types de techniques un peu, j'allais dire, parallèles, voilà, énergéticiennes, toutes ces techniques ne sont pas encore reconnues, enfin, on nous met en garde un petit peu à la Ligue nationale.
Donc, on a vu la recherche, on a vu la prévention, l'aide aux malades, oui. Avec ces deux branches. Mm-hmm. Autre chose que la Ligue nationale.
Alors, c'est la quatrième mission, oui. Alors qui, pour nous, est un peu plus éloignée. En fait, c'est tout ce qu'on appelle la société, les actions publiques de la Ligue qui agit sur les... pour lutter contre les effets de la les mauvais effets, je dirais plutôt, de soit de l'alimentation, soit du tabac, soit de l'alcool, voilà, de tout ce qui sont les facteurs de risque de d'un cancer, hein. Et voilà, donc ils agissent au niveau du gouvernement, de l'Assemblée nationale, ils font des actions. Alors ça se situe plus en national, mais on pourrait aussi se faire le relais, nous aussi, auprès de nos élus, au niveau local. Hein. Bon, ce que j'ai fait, parce que j'ai rencontré le député Benoît Mournet, hein, pour au moins me présenter, voir quel type d'action on pourrait avoir ou qu'est-ce qui pourrait aussi influencer au niveau de l'Assemblée nationale quand on débat de ces sujets. Je pense aussi aux nitrites, les fameux nitrites dans les... On s'est reconnu qu'ils sont cancérigènes, mais ils existent encore. Donc on commence à voir quelques produits sans nitrites, mais bon, c'est pas encore... pour toutes les charcuteries, c'est pas, on n'a pas trouvé le palliatif à ça. Donc voilà, c'est un des combats de la Ligue, par exemple.
D'ailleurs, avant une élection, vous allez poser des questions. Hein, un peu, la Ligue nationale vous invite à poser des questions bien particulières sur comment va se positionner le candidat.
Oui, tout à fait. Par rapport à ça, bon, s'il est dans une commission sur la santé ou sociale, c'est vrai que c'est mieux. Hein, mais bon, sinon, voilà, ils peuvent quand même débattre aussi au niveau national pour ces grands sujets, hein, qui sont des grands sujets quand même, pour voir par rapport au tabac et l'alcool chez les jeunes. Enfin, il y a quand même beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder, les pesticides. Voilà, il y a des grands sujets. D'actualité qui sont quand même à l'origine des cancers, l'environnement.
Avant de partir dans les coulisses peut-être d'un comité départemental, cette fois-ci local, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur peut-être quelques mots sur les avancées? Est-ce qu'il y a des espoirs? Est-ce qu'il y a vraiment des avancées? Est-ce que ça vaut encore le coup de donner de l'argent à la Ligue contre le cancer pour continuer à trouver des nouveaux traitements, des nouvelles pistes pour soigner les gens? Il y a quelques cancers quand même aujourd'hui qui se soignent.
Oui, tout à fait. Il y en a qui se guérissent même. Voilà, c'est le grand message qu'on essaie d'avoir avec le dépistage du cancer du sein ou du cancer colorectal. Oui, tout à fait, les traitements. Heureusement que la recherche avance, et elle avance même assez vite, hein, puisque tous les ans, on a des grandes annonces qui nous arrivent. Lors du congrès international à Chicago, notamment cette année avec le futur vaccin pour le cancer des poumons. Pour certains types de cancers de poumons, oui. Hein, pas tous les cancers, mais bon, c'est quand même une avancée. Hein, ce sera un des premiers vaccins thérapeutiques. Voilà, donc oui, la recherche est vraiment indispensable.
Indispensable,
même on devra aller au-delà, quoi, hein, sur la recherche fondamentale, qui devrait normalement être prise en charge par l'État, mais bon, voilà, là, c'est quand même la recherche, les dons privés qui permettent de faire développer tout, cette recherche.
Peut-être, avant de passer aux comités départementaux, on peut parler de la prise en charge dans les Hautes-Pyrénées. Est-ce qu'il y a des moyens suffisants pour une bonne prise en charge des différents cancers ?
Bon, je dirais oui. Je dirais oui quand même, globalement, puisqu'on a deux grosses structures avec l'hôpital de Tarbes-Lourdes et la polyclinique de l'Ormeau, qui maintenant c'est un peu partagé les spécialités. Hein, donc voilà, c'est un, On peut quand même trouver, même s'il y a encore des délais, bien sûr, on peut quand même trouver les médecins pour notre prise en charge, pour les prises en charge des citoyens du département, oui, qui des fois vont quand même aussi vers l'oncopole ou vers Pau, hein, puisqu'il y a des fois des cancers qu'on ne peut pas traiter, notamment les cancers pédiatriques qui ne se traitent pas du tout dans le département. Bon, voilà, avec ces deux pôles, qui me semble, il y a eu quand même des nouveaux médecins qui sont arrivés. Mmh. À la polyclinique de l'Ormeau, on a une nouvelle équipe de jeunes. Voilà, bon, certains sont partis à l'Arbison, mais c'est très bien parce qu'ils sont en train de développer une unité de soins palliatifs à l'Arbison. Voilà, et des jeunes sont arrivés à la polyclinique de l'Ormeau, c'est très bien. Et il y a deux nouveaux à l'hôpital de Tarbes aussi, donc le docteur Philippe de Guiral. Et une nouvelle hématologue aussi qui est arrivée l'année dernière. Voilà, toute jeune, je ne me souviens plus de son nom. voilà, donc je pense qu'il y a une bonne prise en charge sur le département. Voilà, on soigne les gens, il y a de la radiothérapie. Mmh. Hein, ça, quand même, c'est bien, les gens ne sont pas obligés, comme dans le département voisin, d'aller au-delà de leur département pour se faire soigner tous les jours, hein, parce que la radiothérapie, il faut y aller tous les jours, donc c'est un peu compliqué quand vous ne l'avez pas sur place. Donc on a quand même cet avantage. Bon, et on espère qu'avec le nouvel hôpital, on aura aussi d'autres techniques, avec le PET scan par exemple, pour vraiment diagnostiquer et surtout suivre les cancers. Métastatique notamment, donc avec le PET scan dans le nouvel hôpital. Ils disent même qu'on l'aura peut-être avant, et on espère. Parce que bon, il faut attendre 2029, donc maintenant, alors ça fait un peu loin.
Et justement, sur le diagnostic, les moyens de se faire dépister sont aussi.
Oui, aussi, bon, avec des délais. Hein, c'est sûr que pour la mammographie, les délais, maintenant, sont de 3 mois, 3, 4 mois avant d'obtenir le rendez-vous. Voilà, avant, on n'avait pas ça du tout, mais bon, on a quand même encore quelques structures qui sont encore en place, avec des médecins qui ne sont pas tout jeunes, mais qui sont encore là, qui ont du mal à trouver des remplaçants. Voilà, et une structure qui est en train de se monter à Lourdes. Bon, donc, au moins pour notre secteur, nous aurons ce qu'il faut pour au moins le mammographe pour le cancer du sein.
Hein, pour et le camion préventif.
Voilà, alors le camion préventif, voilà, ça c'est la nouveauté. Alors, camion préventif, il a été fait, il appartient au conseil départemental qui en assure la maintenance. Il est géré par la société CETIR et géré aussi par le docteur Davy et Sarniguet, voilà, pour pouvoir en disposer dans tout le département et notamment dans les lieux reculés. Un peu, le milieu ruraux, les déserts médicaux. Alors, dedans, il y a un mammographe, il y a une salle de consultation pour une sage-femme pour faire les frottis. Voilà, et il y aura aussi la possibilité d'interroger les gens par rapport au cancer colorectal et leur délivrer éventuellement le kit pour dépister le cancer colorectal.
Et alors, justement, vous parlez d'aller vers. Dans des zones où, effectivement, il y a moins de médecins. Est-ce qu'on constate une corrélation, effectivement, entre la présence des médecins et le retard de prise en charge des cancers? Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles on a des données?
Moi, je n'ai pas de données, mais je pense que c'est tout à fait vrai. Parce que pour avoir fait l'année dernière des actions avec la CPAM, justement, avant qu'on ait le camion, on est quand même allé dans les lieux comme Castelnau-Magnouac, Campan et Lucin-Sauveur. Et là, on se rend compte quand même qu'il y a des gens qui sont venus, qui n'avaient pas vu un médecin depuis un an. Parce que la CPAM prenait des rendez-vous aussi pour leur consultation CPAM. Donc, ça permettait quand même d'au moins développer ça. Parce qu'en même temps, on essayait de traiter les. Et on se rend compte quand même qu'il y a des gens qui était en galère pour trouver un médecin, même un médecin généraliste. Mais bon, ça, c'est bien connu un peu partout, malheureusement.
C'est quelque chose qui vous inquiète, hein, en tant que présidente de la Ligue contre le cancer. Oui. Ces médecins sur la ville de Lourdes, la ville de Tarbes, il y aura des médecins qui vont partir là, prochainement à la retraite. On aura sûrement du mal à recruter d'autres médecins, et même les nouveaux médecins ne sont plus les anciens médecins d'avant, un peu corvéables. Aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui ont des heures un peu de bureau et qui se gardent le week-end. Ça devient compliqué. On voit en France des images surnaturelles de gens, de patients qui attendent à l'extérieur pour être pris en charge dans les urgences, voire même louer des petits box à l'extérieur des hôpitaux pour être soignés. Est-ce que la France, qui a été un phare au niveau de la médecine, aujourd'hui n'a pas un réel problème ?
Si, c'est inquiétant, bien sûr. C'est inquiétant. Bon, après, il y a des structures qui se montent, comme les CPTS, les comités professionnels territoriaux de santé, pour essayer justement de coordonner les soins autour des patients. Et puis, il y aura d'autres professions paramédicales qui viendront un peu suppléer aussi, comme les infirmières de avancées, là, je ne sais plus comment on dit, les infirmières, vous ne savez pas, IPA, ça s'appelle, voilà, de pratique avancée. Et voilà, qui vont aider les médecins à faire des actes qu'elles peuvent faire, comme prendre la tension, la température et tout ça, pour alléger la charge des médecins, pour pouvoir accélérer les consultations. Il va y avoir plusieurs structures, les maisons de santé, les centres de santé qui se développent, bon... bon, voilà, oui, c'est toujours inquiétant parce qu'effectivement, la médecine a changé. La physionomie de la médecine a changé. Mais bon, il y a encore des médecins, il y en a encore qui y croient.
Et puis, c'est vrai que pour le traitement des cancers, je ne sais pas, par exemple, la télémédecine se développe beaucoup, mais pour un cancer, est-ce qu'on peut avoir recours à une telle...
Non, c'est difficile, pas... non. Ça peut être une première consultation, mais bon, on a toujours besoin de... Voilà, là, c'est là où l'infirmière de pratique avancée peut, elle, faire les actes éventuellement, et le médecin donner les directives. Voilà, mais en médecine générale, en médecine spécialisée, non. Ça sera pas... De toute façon, il faut faire tout un tas d'examens. Le cancer, il se diagnostique pas comme ça à l'œil nu.
Oui.
Voilà, donc... le cancer, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait peut-être se développer dans chacun d'entre nous sans qu'on le sache. Le dépistage, c'est vraiment quelque chose. Est-ce qu'on peut résumer à un incendie ? Si un incendie est pris à temps, on peut l'éteindre avec un extincteur, ça va assez rapidement. Et si on le laisse se propager, malheureusement, la maison brûle. Est-ce que le dépistage est vraiment, vraiment aussi un outil pour la prise en charge des cancers ?
Voilà, c'est tout à fait ce que vous dites, c'est un outil. Un outil qui a le gros avantage en France d'être organisé et gratuit, hein, pour le cancer du sein, cancer colorectal et l'utérus maintenant. Voilà, donc moi j'y crois beaucoup, hein, parce qu'on a découvert des cancers tout petits, hein, parce que le but c'est ça, c'est de les découvrir tout petits avant qu'ils se développent, et avec derrière des traitements beaucoup moins lourds, hein, avec simplement éventuellement de la radiothérapie. C'est pas un traitement bénin, mais malgré tout, oui, c'est moins lourd qu'une chimiothérapie, plus une radiothérapie, en plus d'une tumorectomie, voilà, quand il n'y a pas une ablation complète d'un sein, par exemple. Donc voilà, le dépistage, il sert à ça, hein. On dépiste. Alors c'est dommage qu'on ne puisse pas le développer plus, hein, que les gens n'adhèrent pas autant, puisqu'on est à moins de 50% pour le cancer du sein et autour de 30% pour le cancer colorectal. Donc, c'est les chiffres nationaux, mais qui sont aussi nos chiffres, hein, départementaux. Hein, c'est à peu près la moyenne nationale. Voilà, alors on essaie de faire augmenter ces chiffres, mais c'est très difficile. Et c'est vrai que le confinement aussi, le Covid a un peu freiné tout ça, puisque tout s'est arrêté en mars 2020. Bon, ça a repris, bien sûr, mais voilà, à ce moment-là, on ne diagnostique plus du tout. Et donc, on a des retards de diagnostic. On ne voit pas encore les conséquences, parce qu'on ne les verra qu'au bout de 5 ans, et les scientifiques... parler de ce délai qu'il fallait pour voir les conséquences du Covid dans ce domaine-là, parce qu'on n'a plus diagnostiqué, et donc il y a un retard de prise en charge, et donc une perte de chance pour les patients.
Quel conseil vous pourriez dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui ? Il y a des grandes opérations, hein, on pense à Octobre Rose, qui est peut-être emblématique aujourd'hui pour les dépistages des cancers du sein, mais il y a aussi pratiquement tous les mois, il y a une opération pour le dépistage. Mars, donc le cancer colorectal, Mars bleu, septembre en or, c'est pour les cancers pédiatriques, pour les enfants et les adolescents. Tous les mois, il y a une cause pour... Qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil vous qui avez participé, toutes les femmes qui nous écoutent, qui ont participé à Octobre Rose, c'est bien. Elles ont donné, elles ont peut-être fait une activité sportive en marchant, en blaguant entre amis et c'est plutôt sympa et convivial. Mais il faut qu'il y ait une suite à ça.
Oui, c'est un peu le côté pas négatif parce que je pense qu'on en baissera pas. Mais on a un peu de mal à faire adhérer justement celles qui viennent parce que celles qui viennent dans les manifestations... elles se font dépister, la plupart. Hein. Oui. Bon, après, elles peuvent en parler autour d'elles, dans la famille, voilà. Même les enfants peuvent se faire le relais de ça pour que... Parce que, bon, on a des générations aussi avant nous, hein, nos parents, nos mamans, elles n'allaient pas chez le gynécologue, elles ne se faisaient pas ausculter par les médecins généralistes. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas du tout dans l'air du temps à l'époque, donc... Elles sont mortes de cancer de l'utérus et du sein, hein, sans des fois trop le savoir. Donc on est dans une nouvelle génération où là, les jeunes sont avertis. Voilà. Alors ceux qui viennent dans les manifestations le savent. Mais bon, voilà, ils peuvent se faire le relais pour justement les populations qui n'adhèrent pas. C'est pour ça que le milieu rural est important, parce que si on est allé dans ces trois villes avec la CPAM, c'est parce qu'ils avaient regardé... quels sont justement les taux d'adhésion au dépistage, hein, que ce soit colorectal ou sein, dans ces lieux-là. Et on se rend compte, alors c'est peut-être lié aux déserts médicaux, mais c'est ou parce qu'on est trop éloigné d'un centre de radiologie, par exemple, qui fait qu'on n'y va pas. On n'y va pas, ou on n'est pas sensibilisé. Bon, voilà, il y a sûrement plein d'explications.
Est-ce qu'on n'a pas peur un peu ? Est-ce qu'on ne fait pas un peu l'autruche ? Est-ce que oui. Si on ne sait pas, on n'a pas peur ? Est-ce que le fait quand même d'aller faire un dépistage, il n'y a pas une appréhension ? Alors bien sûr, on est soulagé, s'il n'y a rien, et tant mieux. Et s'il y a quelque chose, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu cet effet autruche ?
Oui, il y a ça. Il y en a qui ont peur de... Je reparle sur la mammographie. Oui. Il y en a qui ont peur du mammographe. La mammographie, ben, ça fait mal. Bon, il faut savoir que maintenant, les appareils sont beaucoup plus sophistiqués et ça fait moins mal. Bon, je ne l'ai pas testé encore, mais à leur mot, ils ont acquis un appareil de dernière génération. Et voilà, donc c'est vrai que ça... Il y a ça et puis elles ont peur du résultat. Vous voyez, dans une population, il y aura toujours une ou deux là qui sera « Non, non, moi, j'y vais pas, je veux pas savoir, j'ai peur de savoir. » Voilà ce qu'on entend. Alors, c'est pas tout le monde, heureusement, oui. Parce que ça a quand même évolué. Mais bon, on reste un peu certaines sur... Alors, c'est ce fameux pourcentage, parce qu'il faudrait qu'on atteigne 70%. Maintenant, on disait 60, 70%. Donc, il nous manque encore 20% de la population éligible pour venir... pour venir se faire dépister. Bon, voilà, on a un peu de mal à aller les chercher. Bon, avec toutes ces actions, on espère quand même que le taux, on vérifie ce taux tous les ans, que ce taux augmentera.
Et quelle est l'évolution sur 10 ans, par exemple ? Est-ce que vous l'avez en tête ?
L'évolution
ce taux de dépistage.
Mais ce taux, justement, il a stagné pendant le confinement. D'accord. Il a du mal à remonter. Il remonte tout doucement. Voilà, parce qu'en fait, avant le confinement, on était un peu plus de 50%.
D'accord.
Mais bon, 51-52, et on a rebaissé de 5 points au moins, et là on remonte, on est à 49-8, je crois, nous.
D'accord.
Voilà. Hein, c'est pour dire voilà, que ça remonte, mais tout doucement. Ouais. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas exponentiel comme on pourrait l'attendre, justement.
Notre invité cette semaine, c'est vous, Annette Cuc, et merci d'avoir accepté avec vous, Gaëtan Rohr, du groupe La Dépêche, pour cette émission L'Heure de Pointe. On parle bien sûr de quelque chose qui fait peur. Dès qu'on emploie le mot cancer, on connaît tous quelqu'un qui est malade ou qui est parti à cause de cette maladie. Mais parlons quand même de quelque chose qui est quand même plus festif, c'est cette opération Octobre Rose qui, je me demande même s'il n'est pas en train de supplanter la fameuse opération qu'il y a fin début novembre, le nom m'a échappé.
Le Téléthon.
Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que... Alors, bien sûr, il ne faut pas les mettre du tout en concurrence, mais c'est vrai que Octobre Rose a, effectivement, au moins dans le département des Hautes-Pyrénées, a pris une ampleur incroyable avec, effectivement, cette manifestation qui est la Tarbelle, organisée par le service de la mairie de Tarbes. Plus de 6300 coureuses ou participantes cette année sur le stade Maurice Trélu. En fait, 45 manifestations ont été organisées dans le département des Hautes-Pyrénées. Et la Ligue contre le cancer, alors là, vous avez un travail à temps plein en ETQ, puisque toutes vos équipes là sont mobilisées pour essayer. Parce que, bien sûr, ils veulent un représentant de la Ligue contre le cancer dans la manifestation.
Oui, oui, on est tout à fait partenaire, puis c'est important d'être partenaire chaque fois qu'il y a une manifestation. Donc, on se départage. On a une quinzaine de bénévoles autour de nous là, qui nous permettent de pouvoir être sur les actions. Bon, moi, j'essaie d'aller un maximum d'endroits. Voilà, donc c'est petite et moyenne ville. Et bien sûr, la Tarbelle, qui est vraiment le summum, qui est au milieu du mois, là, le summum, puisque donc il y a plus de 6000, vous l'avez dit, 6300 personnes il y a eu en 2023, là, sur l'opération 2023. C'est vraiment, et je crois que c'est la plus grosse opération de la région d'Occitanie, hein, dans les villes. Donc c'est vrai que notre département est très... voilà, c'est Argelès avait commencé aussi. Argelès a fêté ses 10 ans, déjà c'est sa 10e année. Bon, c'est pas encore pour la Tarbelle, mais ça va pas tarder. Voilà, donc c'est bien, oui. Nous, on essaie d'être partenaires. Bon, on est là normalement pour le message de la préventif, mais bon, c'est... J'allais dire, c'est un peu difficile à ce moment-là, parce que les gens viennent pour passer un bon moment. Souvent, ils viennent entre amis, en famille. Bon, voilà. Le message du dépistage est un peu difficile à faire passer à ce moment-là. Mais on espère que, justement, à force, il y aura un peu d'impact sur les chiffres. Voilà. Je crois un peu plus aux actions qu'on fait dans les quartiers, dans les zones reculées, dans le milieu rural, hein, et qu'on fera toute l'année aussi, hein, parce que là, il ne faut pas le faire qu'au mois d'octobre.
Mmh. 140 000 euros quand même, hein, vous avez récolté sur toutes les opérations
En 2022.
En 2022, voilà, c'est sur le chiffre 2022. Est-ce que 2023 a l'air d'être pareil ou vous avez quelques tendances?
Il s'annonce pas trop loin, mais c'est plutôt en baisse. Parce qu'il y a eu des manifestations comme Ibos qui ne s'est pas faite, et plutôt, à part la Tarbelle, plutôt des manifestations où il y a un peu moins de participation. Voilà. Voilà. Donc, bien sûr, les chiffres du coup baissent un peu. Mais par contre, il y a beaucoup aussi d'autres participants, comme des commerçants. Je pense à l'association des commerçants de Lannemezan, qui a fait une grosse opération après Octobre Rose. Voilà, qui a ramené plus de 3000 euros à la Ligue. Voilà, il y a des salles de sport aussi, il y en a à Lourdes, des cabinets de kiné, voilà. Il y a tout un tas des salons d'esthétique aussi. Vous voyez, tous ces métiers qui sont autour, justement, des soins de support, de l'activité physique, de la socio-esthétique, voilà, qui sont sensibilisés à cette action et qui voilà, font leur action propre en récoltant des fonds, en vendant quelques goodies qu'on leur propose. Voilà. Hein, voilà. C'est tout cet ensemble qui donne ces chiffres. Hein.
Mmh. Voilà, 140 000 euros donc, sur l'année 2022. On attendra que vous clôturiez, bien sûr, les derniers.
Parce que je crois que vous avez la remise du chèque de la Tarbelle est mardi soir.
Voilà. Voilà. Octobre Rose, on peut dire que vous êtes invité à participer à une opération qui est organisée soit par une commune, soit par une association. Vous l'avez dit, même une association de commerçants ou même des clubs sportifs ont organisé les choses. Mais vous êtes aussi le comité départemental, vous proposez aussi des manifestations. Vous avez organisé des concerts, vous avez organisé Mars Bleu au lac de Lourdes, vous avez organisé également une pièce de théâtre qui était très intéressante autour du cancer. C'était avec Léo, hein, je me souviens, d'une pièce de théâtre sur Tarbes et sur Lourdes et sur Séméac.
Oui.
Ça aussi, c'est quelque chose que vous mettez en place aussi pour aussi continuer la prévention.
Oui, tout à fait. Là, on était dans le cadre de la de la motivation par rapport au cancer des enfants et des adolescents. On nous avait proposé une pièce de théâtre. Donc ça se passe en septembre, puisque ça s'appelle Septembre à Nord. C'est pour une sensibilisation sur ces cancers-là. Et donc on nous a proposé une pièce de théâtre qui s'appelle Léo. Voilà, qu'on a pu faire passer. Alors c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui découvre son cancer du sang, c'est une leucémie, et voilà, et on voit tout son parcours autour de sa vie d'adolescent, voilà, à la fois le problème avec les savoir s'il faut dire ou pas, entre les parents, la famille, les amis, enfin tout le chamboulement que peut avoir la maladie sur un adolescent. C'est vrai très intéressant. C'est dommage, on n'a pas eu trop de monde. Voilà, on l'a fait à Lourdes, et grâce à la ville de Lourdes qui nous a mis à disposition le palais des congrès, et à Séméac aussi, à la salle au CAC de Séméac. Voilà, donc on a eu cette possibilité, mais bon, on est très content de l'avoir fait. Bien sûr, ça n'a pas rapporté beaucoup pour la Ligue, mais en même temps, voilà, c'était une sensibilisation vers ce type de cancer, parce que ça, c'était pas très connu.
Septembre en or, ça date de cette année.
Pour nous, mais sinon, c'est pas aussi vieux qu'Octobre Rose, mais donc ça, il y a un petit moment que ça a été lancé par la Ligue.
Opération aussi que vous voulez mettre en place, qui est effectivement peut-être moins glamour que l'Octobre Rose, c'est le cancer, le dépistage du cancer colorectal avec Mars Bleu, parce que c'est un cancer qui est très meurtrier.
Ah oui, tout à fait, oui, là c'est le, en gros le deuxième type de cancer chez l'homme et chez la femme, le plus meurtrier même. Voilà, donc c'est quand même très, très important. Alors c'est pas glamour effectivement, parce que là on parle de cancer colorectal, où le dépistage se fait à la maison grâce à un kit, mais bon, il faut le faire, c'est toujours pareil, de 50 à 74 ans, on est invité à faire ce dépistage tous les 2 ans, et voilà, parce que dès qu'un saignement, c'est qu'il y a quelque chose. Donc il faut le prendre le plus tôt possible. Alors on ne peut pas faire des colos à tout bout de champ, à tout le monde. Donc il n'y a que les familles à risque qui sont prises en charge, elles, et qui font une colo tous les ans ou tous les 3 ans, je ne me souviens plus maintenant. Mais bon, elles font des coloscopies, là, beaucoup plus fréquentes. Tandis que quand on fait le test, on ne fait la colo que s'il y a un test positif. On fait de la recherche de sang dans les selles. Voilà. Donc, lors de Mars Bleu, dans des manifestations, on essaye de marteler le message aussi. Bon, au lac de Lourdes, effectivement, l'année d'avant, voilà, on a essayé quand même de faire passer le message.
Le message, tout à fait. On va aller rapidement, puisque je voudrais qu'on parle aussi des espaces Ligue que vous avez mis en place, mais puisqu'on est à Mars Bleu et au cancer colorectal, le comité départemental de la Ligue contre le cancer des Hautes-Pyrénées a financé un module. Vous étiez le premier dans toute la région, dans tout le Grand Sud-Ouest, même avant Toulouse et Bordeaux, ce qui est incroyable, le financement d'un module d'intelligence artificielle pour faire les coloscopies, et ça a été financé par la Ligue, entre autres, une grosse partie, pour l'hôpital de Tarbes.
Oui, donc c'était en 2020, voilà, c'est avant le Covid, il me semble. Voilà, on a été sollicité par l'hôpital de Tarbes, par le service du docteur Andro, qui est gastro-entérologue et qui s'occupe bien sûr des coloscopies en même temps, pour avoir ce module d'intelligence artificielle. On n'en parlait pas encore autant que maintenant, et voilà, qui permet de détecter des polypes les plus petits possibles ou mal placés, qu'ils ne peuvent pas voir à l'œil nu. Voilà, ça aide en fait le gastro-entérologue à détecter des petits polypes. Voilà, et on est toujours dans ce dépistage. Voilà, là c'est une aide. L'œil, ça ne va pas le faire tout seul. Il faut toujours que le gastro-entérologue soit derrière l'endoscope. Mais voilà, ça les aide beaucoup. Il y a un signal sonore qui arrive, et à eux de voir si c'est... Et ça détecte aussi le type de polype, si c'est cancéreux ou pas. Au moins si ça a une forme un peu particulière ou pas.
Donc c'est voilà. Un outil qui a été financé aussi mais voilà, par, voilà, les dons, par, hein, par les dons, oui, des, tout à fait, des, oui, des personnes.
Ça fait partie pour nous comme la recherche. Voilà. Hein, du coup, on le met dans cette partie-là. Et en 2023, nous avons financé aussi pour l'hôpital ZAP, en partie puisque la Mutualité française, le conseil départemental et les Lions, oui, les Lions et Rotary, ont financé avec nous un appareil qui s'appelle un injecteur pour injecter dans le péritoine un médicament anticancéreux qui permet de traiter des cancers qui sont métastatiques au niveau du péritoine. Alors c'est intra-péritonéal, c'est un injecteur. C'est le docteur Amandine Pinto qui a mis en place cette technique, hein, qui est une technique innovante parce qu'elle ne se fait pas du tout non plus dans la région. Hein, le plus près, c'est Montpellier et Limoges. Voilà, donc on a cet avantage quand même. Donc on a voulu justement aider un praticien qui voulait développer une technique qui peut être quand même améliorer la qualité de vie de certains patients de notre département.
Le temps file vite. Je voudrais qu'on parle de, puisqu'on a parlé largement tout à l'heure des soins de support, eh bien ces soins de support, on va parler de ces espaces ligues. Qu'est-ce que c'est qu'une espace ligue ?
Oui, voilà. Donc, on développe en même temps que les soins de support, on développe des espaces ligues dans des zones un peu éloignées de Tarbes. Voilà. Donc, le premier espace ligue a été créé et ouvert en novembre 2023. Bon, c'est assez récent, grâce à une équipe de bénévoles locales. Voilà, locaux, locales, pour l'instant ce ne sont que des dames, donc voilà, elles sont, et on y fait en fait soit des permanences, donc une permanence, donc là c'est sur Vic Bigorre Maubourguet, donc on a une espace ligue à double tête, disons, qu'on fait une semaine sur deux, une fois à Vic, une fois à Maubourguet, et on a mis en place quelques soins de support, les deux bases, comme je le disais tout à l'heure, donc la diététique, le soutien psychologique, la sophrologie, la socio-esthétique et l'activité physique adaptée qui est en train de se mettre en place. Voilà, et ce qu'on souhaite, c'est en développer d'autres. Y a un projet sur Bagnères, voilà, avec la maison de santé de Bagnères et la mairie de Bagnères, qui est partie prenante. Et voilà, et on est à la recherche aussi d'un local à Argelès. Voilà, j'ai fait quelques démarches, j'ai même vu le sous-préfet. Bon, je pense qu'on aura, ça va être un peu plus long à Argelès, mais je pense que d'ici la fin de l'année, début 2025, on aura aussi un local sur Argelès. Et voilà, là, c'est une mise à disposition. Ce qu'on recherche, c'est une mise à disposition de locaux. Alors, on contacte les élus. Là, par exemple, à Vic Bigorre Maubourguet, c'est la communauté de communes à Dourmadiran qui nous a reçus et qui nous a mis tout de suite à disposition. Bon, c'est des bureaux partagés, mais bon, peu importe. Un bureau à la fois dans les deux maisons de santé de Vic et Maubourguet.
Donc, Bagnères, ça avance bien. Argelès, un petit peu loin. Et vous souhaiteriez aussi l'Almezan à plus long terme.
Alors là, plus long terme, parce que là, on manque de bénévoles localement. Bon, ça commence à se développer, mais on manque un peu de bénévoles. Et on voudrait couvrir toute la vallée de Nest, et l'Almezan. J'espère qu'à terme, on y arrivera. Voilà, déjà, Bagnères, bon, on se rapproche un peu. Voilà, c'est un peu moins loin pour... plutôt que de venir à Tarbes, ceux de l'Almezan pourront peut-être aller à Bagnères plus facilement qu'aller à Tarbes ou à Louay. Parce que bon, nous, pour l'instant, les soins de support, ils se font à Louay. Donc, pour quelqu'un qui arrive de la vallée de Nest, ça fait peut-être
ça fait un petit peu loin. Donc, effectivement, le siège, vous l'avez dit, c'est à Tarbes, effectivement, avec aussi une belle collaboration avec la commune de Louay, hein, qui vous met à disposition un local aussi à Louay.
Oui, on a même presque une maison entière. Voilà, elle est mise à disposition par la mairie. Hein. Je remercie Monsieur Christian Laborde, le maire. Et on est en plus dans un endroit près du pôle de santé. voilà, avec parking et tout ce qu'il faut. Alors, on y fait nos soins de support, notamment socio-esthétique et réflexologie plantaire, le yoga, hein, voilà, les soins de support qu'on peut pas faire ailleurs. Hein, voilà. Parce que l'activité physique adaptée, on est en collaboration avec Resapi, c'est eux qui nous sous-traitent cette activité. Donc, ça se fait dans les locaux mis à disposition par Resapi. Voilà, pour Resapi.
Deux mots quand même, parce que c'est important. Vous avez aussi quelqu'un qui s'occupe du tabac, hein, de la lutte contre le tabac. Et là aussi, quelqu'un de très investi qui va à la rencontre des gens, mais aussi dans les entreprises, et comme par exemple chez Daher, qui finance, donne au moins du temps à ses employés pendant les heures de travail pour aller faire des suivis pour arrêter le tabac.
Oui. Bon, oui, on a une tabacologue qui travaille pour nous depuis de nombreuses années. Chantal Bernat, qui travaille aussi pour la CPAM. Hein, c'est une ancienne sage-femme, donc qui fait des actions sur la CPAM en tant que sage-femme, mais aussi tabacologue. Donc, qui intervient beaucoup, qui intervient dans les écoles aussi. Hein, et dans les entreprises, oui, comme Daher, là où elle fait quelques consultations. Consultation tabac.
Voilà, et puis le mois de décembre était aussi le mois sans tabac.
Le mois de novembre.
Novembre, pardon.
Voilà, le mois d'octobre et novembre étaient consacrés à... Voilà, il y avait tout un appel à projet. On a répondu à un appel à projet, la CPAM. Pardon. Voilà, on a répondu à cet appel à projet. Et donc, elle avait tout un programme sur 2 mois pour aller dans des... Voilà, là, au service de maternité aussi à Tarbes, dans les écoles et dans les entreprises.
Merci beaucoup, Annette Cuc, d'être venue nous parler de la Ligue contre le cancer, du comité départemental. On sait maintenant, on participe à une manifestation ou lorsqu'on donne pour la Ligue contre le cancer, eh bien, on sait où part l'argent. C'est vrai qu'il y avait le scandale qu'il y a eu il y a quelques années. Aujourd'hui, vous êtes très contrôlé, même plus que contrôlé. Et un coup de chapeau à tous les gens qui vous accompagnent, tous les bénévoles, les gens qui sont autour de vous. Qui œuvre pour la Ligue contre le cancer, parce que des fois, Annette Cuc, c'est presque un travail à temps plein. Vous pouvez le constater. Oui. Hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'administratifs, parce que tout est contrôlé, oui. Et c'est tant mieux pour les gens qui donnent.
Oui, d'accord. C'est vrai que ça a été un peu compliqué au début, hein, parce que moi, j'ai découvert un peu cette structure. Enfin, je connaissais la Ligue, mais je ne connaissais pas la structure et comment c'était organisé. Alors, c'est vrai que la Ligue nationale est importante. Elle nous dirige, hein, elle nous donne les actions, mais après on a un peu d'autonomie interne, mais on a beaucoup d'encadrement. Mmh. Hein, donc ça c'est vrai que les dons sont très encadrés, ce qui est normal, hein, oui. Ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc on a même un commissaire aux comptes, parce qu'on a un budget qui fait qu'on a un commissaire aux comptes, donc on est contrôlé par les commissaires aux comptes, par les experts comptables et bien sûr par la Ligue nationale. Donc voilà, mais bon, après ça c'est normal. Bon, on a une équipe de bénévoles, mais on a des salariés aussi, parce que pour tout ce qui est comptabilité et organisation, on a eu en 2023 une collaboratrice qui est arrivée, voilà, qui nous fait un gros, gros travail. Voilà, notamment parce qu'il faut signer des conventions avec tous les prestataires, alors comme on les multiplie un peu, là, donc ça fait énormément de choses à faire, de choses à organiser. Donc c'est vrai qu'elle nous aide beaucoup. Et ça, donc, quand même, secrétaire général et moi-même, on a été un peu soulagés, malgré tout. Voilà, merci.
Voilà, et puis on termine pour dire qu'il manque quand même cruellement dans ce département, on terminera avec ça, d'une unité de soins palliatifs. Voilà, peut-être ça sera à développer et vraiment dans ce département des Hautes-Pyrénées. Merci beaucoup, Annette Cuquin, vous êtes la présidente du comité départemental de la Ligue contre le cancer pour le département des Hautes-Pyrénées. Une fois qu'on a dit le nom, on a passé presque l'émission à le faire. Merci à Gaëtan Leroy,
merci.
Effectivement du groupe La Dépêche, La Nouvelle République, d'animer avec moi cette émission. L'heure de pointe, à la semaine prochaine.